voulez bien. Donc, je vais aller à l'essentiel. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de PowerPoint, j'en ai que deux, en fait, que je pourrais utiliser. Donc, pour aller rapidement, je voudrais, si vous voulez bien, faire deux choses. D'abord, rappeler le contexte et particularités de la Ligue Nord comme modèle, pour ensuite arriver à aujourd'hui, quels sont les défis. Parce que, au fond, dans ces deux intervenants précédents, ont bien souligné le changement qui s'est produit, que dans le fond, on n'est plus dans le même environnement économique, international et même politique qu'il y a 20 ans. Alors, pour aller rapidement sur le premier point, qu'est-ce qu'il y avait vraiment de particulier, je dirais, au niveau de l'ALENA, comme on a pu en parler d'un modèle? J'irais trois choses essentiellement. D'abord, ça a été, et c'était souligné par Gilbert Gagné, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Ça n'a pas été un régionalisme de solidarité. Au contraire, c'était même en rupture avec la vision d'un régionalisme de charité, que vous pouvez le retrouver en Europe ou en Amérique latine. Fondamentalement, ça a été un régionalisme de compétitivité, dans le sens où il s'agissait de tourner justement, de regarder vers les marchés internationaux. Il y a quand même eu cette rupture des années 80 où on ne regardait plus vers l'intérieur, on ne regardait plus vers le plein emploi, mais on regardait essentiellement vers l'extérieur, vers les marchés internationaux. Tout ça, c'est la logique qui va vraiment s'imposer dans tous les nouveaux accords commerciaux qui vont se multiplier à partir de cette période-là, et notamment l'ALENA. Un deuxième point aussi qui est important, c'est un accord de circonstances. C'est une alliance de circonstances entre trois pays fort différents l'un de l'autre, mais qui avaient quand même des intérêts communs à se retrouver. Et ces intérêts communs, c'est au niveau de l'international vraiment qu'on les avait. C'est pas au niveau interne, parce qu'en fond, pendant longtemps, les Canada comme le Mexique ont tout fait justement pour éviter d'être pris avec dans le piège, entre guillemets, des États-Unis. Ont tout fait, dans le fond, pour éviter une forme quelconque d'intégration avec les États-Unis. Donc c'est un accord de circonstances qui répondait de cette façon tant pour le Canada que pour le Mexique, qui encore une fois a été tourné vers les marchés extérieurs. Quand vous êtes tourné vers les marchés extérieurs, vous cherchez un accès sécuritaire, privilégié, élargir votre principal marché. Et quel est le principal marché pour le Canada et le Mexique, sinon les États-Unis? Mais du côté américain également, il y avait un intérêt, peut-être, on l'a peut-être mal perçu à l'époque, mais un intérêt à la fois, dans le fond, de répondre à la concurrence des nouveaux pays industrialisés, des dragons d'Asie, comme on les appelait. Et en ce sens-là, vous savez, il y avait un avantage à créer ce grand espace plus intégré, avec moins d'interventions, etc. Mais en même temps aussi, pour les États-Unis, il y avait un intérêt, dans le fond, à faire avancer les règles au niveau national. Donc, un régime de compétitivité, un accord de circonstances, également un troisième point aussi, on a tendance à l'oublier, mais comment ça s'appelle cet accord ? Accord de libre-échange nord-américain. C'est un accord commercial. Là aussi, il y a un changement dans la perspective. Jusqu'à présent, à l'époque, on parlait de libéralisation ordonnée, de négociation ordonnée des échanges, notamment au niveau du GATT. Là, subitement, on change la game, comme on dit. On change la dynamique, on s'ouvre finalement vers la libéralisation par la voie du libre-échange, et surtout une libéralisation qui ne va pas seulement toucher des barrières tarifaires et non tarifaires, mais toutes sortes de nouveaux sujets, la protection intellectuelle, l'investissement, les marchés publics, etc. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il y avait de nouveau avec l'ALENA. Quelque chose, enfin, un régionalisme de compétitivité, un régionalisme finalement qui correspondait de manière circonstancielle, Dorval Brunel et moi-même, on a même parlé par défaut, aux avantages, je veux dire, aux intérêts des trois partenaires, mais également aussi un accord qui, en quelque sorte, ouvrait la voie à toute une nouvelle génération d'accords commerciaux, et à commencer d'ailleurs au niveau du GATT, qui va s'orienter avec l'Uruguay vers d'autres directions, notamment celle qu'avait avancée l'ALENA. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? 20 ans plus tard, 20 ans après, ça me faisait penser, quand je pensais à préparer ma communication, mes quelques mots, ça me faisait penser à ce roman d'Alexandre Dumas, La suite des Trois Mousquetaires, 20 ans après. Effectivement, comme dans les Trois Mousquetaires, les Tres Amigos, comme on les a appelés, mais en fait, les Trois Mousquetaires étaient quatre, comme vous le savez, mais on est toujours content de se retrouver. La semaine prochaine, certainement, chacun va se féliciter de l'avantage ou de l'alignement, etc. Mais les Trois Mousquetaires ont vieilli. Beaucoup de choses sont passées. On a encore pris pour de nouvelles aventures, comme le partenariat transpacifique. Mais fondamentalement, chacun finalement va de son côté, et chacun, dans le fond, a choisi la voie d'aller de son côté. Parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on aurait pu, dans le fond, se tourner, renforcer l'ALENA, aller plus loin. Et certains, je pense à certaines études du CIDIA Institute, qui préconisaient l'union douanière, même, on a même parlé d'union monétaire, etc. C'est pas dans ces directions-là qu'on s'est en allé. On va rouvrir l'ALENA dans le cadre du partenariat transpacifique, sans doute. Mais dans le fond, on va dans une nouvelle direction. Et aujourd'hui, quels sont les défis qui se posent pour nous? Ben, je dirais pour le Canada, il y a trois grands défis, à mon avis, qui sont importants. Et c'est vrai, sans doute, pour le Mexique comme pour les États-Unis. Le premier défi, finalement, c'est celui-là que j'appelle le défi des 3D. D pour désintégration. Pas dans le sens d'explosion dans les mains, mais c'est clair, les liens, nos liens se détachent. Il y a des intégrations, il y a relâchement des liens, desserrement des liens en Amérique du Nord. On le voit très bien le graphique. M. Lanz a parlé finalement que depuis 10 ans, l'ALENA a produit ses effets. Finalement, les meilleures années de l'ALENA sont derrière nous. Plusieurs facteurs. Mais aussi des facteurs quand même qui tiennent au fait que peut-être on a moins d'intérêt à se resserrer. C'est pas simplement la concurrence de l'Asie, c'est pas simplement le fait du taux de change. Il y a aussi peut-être que nos liens vont ailleurs. Le deuxième D, c'est la que j'appelle la déconnexion. Dans le sens où finalement, les États-Unis n'ont pas attendu après nous pour pivoter vers l'Asie. Et nous, à un moment donné, on s'est réveillés finalement pour également aussi chercher des accords. Regardez ailleurs, avec difficulté d'ailleurs. On peine à négocier des accords, ne serait-ce qu'un accord avec la Corée, par exemple. Même du côté de l'Union européenne, c'est pas encore tout gagné, même si c'est à peu près fini. Donc, deuxième dé, la déconnexion. Troisième dé aussi, c'est ce que j'appelle la désindustrialisation. Là, on peut dire, oui, effectivement, la tendance va dans les services, la tendance, et en même temps, attention. Attention, il y a quand même un effet quand même qui est très net, on le voit ici au Canada, on le voit un peu même en Amérique du Nord. L'industrie finalement se déplace vers le sud, vers le Mexique et se déplace vers l'Asie. Pourquoi l'investir au Canada quand ça coûte très cher? Je pourrais juste vous montrer le graphique des coûts salariaux, hein, je pense, évidemment c'est caricatural. Ça nous coûte plus cher au Canada de travailler pour des gains de productivité qui sont de l'ordre de 30 à 40% de moins qu'aux États-Unis, et avec un taux de change qui, maintenant, heureusement, qui commence à baisser, mais bon, ce sont des chiffres qui sont un peu révélateurs. Donc le premier défi, c'est les 3D. Le deuxième défi qu'on a en face de nous, je dirais, c'est cette nouvelle diplomatie commerciale. La nouvelle diplomatie commerciale qui s'est engagée, c'est plus la même qu'il y a 20 ans. C'est plus la même qu'il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de se trouver des marchés principaux, il ne s'agit pas simplement d'aller chercher des investissements. M. Lanz l'a souligné. On est rentré dans une dynamique, vraiment, d'abord, la dynamique régionale des accords. Bah, je m'en excuse, c'est plus en Amérique du Nord, c'est plus en Europe qu'elle se place, c'est en Asie. C'est là que ça bouge, c'est là que ça grouille, c'est là que se font les accords. C'est par là que ça se voit aussi. Mais également aussi, cette dynamique des accords, c'est pas simplement, je dirais, aller regarder du côté des entreprises. Il s'agit avant tout, si je prends des nouvelles stratégies d'entreprise, je vous rappellerai comme ceci. C'est un point qu'on a tendance à sous-estimer, ça. Dans les Amériques, dans l'Amérique du Nord, c'est à gérer une intégration de type filiale. Ce sont des filiales sociétés américaines et tout transite principalement par les États-Unis. Mais aujourd'hui, finalement, la dynamique de l'investissement d'entreprise, c'est plutôt par les filiales, c'est plutôt par des achats, par la sous-traitance, voire même la délocalisation. La Knussel utilise la formule, aujourd'hui, on a production sans investissement. C'est quand même une grande différence par rapport auparavant, où on allait s'implanter dans un marché pour le conquérir, etc. Aujourd'hui, finalement, c'est une autre dynamique. Et c'est ça que reflètent ces accords commerciaux, ces nouveaux accords. C'est dans le fond, comment s'insérer dans les chaînes de valeur, comment dans le fond faciliter la circulation au long des chaînes de valeur. Et ça, on a un problème de ce côté-là, parce qu'on reste quand même encore en Amérique du Nord, trop focalisé sur l'économie, et surtout sur ces réseaux de filiales dont le profite beaucoup aujourd'hui le Mexique. C'est son avantage. Bon. Et enfin, vous voyez, je vais être quand même rapide, le troisième défi que l'on a, ben je pense que M. Dance l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore au temps de l'intégration? Est-ce qu'on est encore au temps de l'intégration? Est-ce qu'on cherche encore à vouloir s'intégrer? J'aurais tendance à dire, et surtout quand je regarde les nouveaux partenariats, le partenariat transpacifique, le partenariat transatlantique, les accords en Asie, c'est pas l'intégration dont on parle, c'est d'interconnexion. On cherche à interconnecter les espaces. On cherche, au fond, à rapprocher les règles, à faciliter, justement, à éliminer ces fameux coûts de transaction, le fameux bol de spaghetti. On est déjà bien au-delà de ce, ce que fait l'OMC, par exemple. Dans les années 80, l'ALENA avait pour but de faire avancer les règles de l'OMC. Aujourd'hui, qui se préoccupe de l'OMC? Je ne m'intéresse quasiment plus personne, l'OMC, à part son directeur général, heureusement d'ailleurs. Mais bon, mais fondamentalement, dans le fond, ce sont ces accords qui se multiplient. Et en ce sens-là, les deux partenariats qui sont en marche du côté tant transatlantique que du côté transpacifique, mis à part le fait que ça nous repositionne par rapport à l'Asie, mais également aussi, c'est que ça ouvre, c'était bien rappelé par le conférencier, ça ouvre aussi, dans le fond, des nouvelles plateformes, une nouvelle façon d'envisager les relations, et surtout, dans le fond, de penser l'interconnexion des espaces économiques. Alors je termine par une question, tout simplement. Il y a une dizaine d'années, avec un collègue, Sylvain Turcotte, on avait produit un ouvrage collectif qui avait pour titre « Suivre les États-Unis ou prendre une autre voie ». C'était il y a une dizaine d'années. Je pense que la question, aujourd'hui, est encore une fois reposée. Quelle est notre meilleure stratégie, finalement, aujourd'hui? S'agit-il de continuer, finalement, à négocier tout seul? Ce n'est pas forcément facile. Je pense que tout le monde est conscient. Ou bien, encore une fois, pour prendre une formule qu'avait utilisée Éric Desrosiers qui est dans la salle, est-ce qu'il ne faut pas, encore une fois, arrimer le bateau Canada au vaisseau amiral des États-Unis et profiter de cet effet de force, comme par exemple le Transpacifique? Je ne me prononcerai pas, mais ça empêche que la question est posée. Et pour nous, elle est extrêmement importante, parce que dans le fond, c'est le futur aussi qui se pose à ce moment-là. Merci.